qui me dit, il y avait un T+7, vous connaissez un T+7? Alors, voilà ce qu'il dit, faut que je vous dise parce que ça soit précis.
Et soyez précis, voilà. Voilà. C'est plus lourd là, c'est plus lourd.
Chiffre provisoire d'un T+7 qui s'est terminé mardi dernier. 254 677 sur Arte TV, plus que Monsanto, meilleure performance Arte de tous les temps. Il faut ajouter les chiffres Dailymotion et YouTube France.
Voilà. Alors, je ne connais pas. Pourquoi venir un petit peu dans le léger, parce qu'on va faire du lourd dans quelques instants, mais François Beaufermann qui écoutait ce matin votre intervention du club de la presse, on s'est dit qu'on allait commencer par une private joke, parce qu'après ça va pas être pareil tout à fait, on va tous mourir.
Oui, de toute façon oui.
Ah, ça c'est sûr, mais bientôt.
Bah, bientôt, le problème c'est dans quelles conditions nous allons mourir.
Non, c'était non, c'est une blague, bien entendu. Bon,
c'est une blague, non,
c'est une blague. Le bouquin est sorti aujourd'hui, maintenant dans les librairies, vous êtes là à 17h. Est-ce que c'est parce que vous avez fait vos études au collège de Strasbourg que vous nous avez donné à une espèce notamment première mondiale?
Non, ça je ne sais pas. Il faut demander aux organisateurs. Ah voilà, voilà.
Voilà, c'est François Charval.
Mais vous ne saviez pas que j'avais fait mes études de journalisme à Strasbourg? Ah non. Donc j'ai fait mes études de journalisme au QS à Strasbourg.
Tu vois François, il y a des très bons journalistes qui sortent du QS de Strasbourg.
Voilà.
Pas mal non plus. Hein. Bon, allez, on est plus sérieux. Bon. Ce bouquin, je l'ai dit, c'est du lourd. Alors on était nombreux à voir le documentaire. C'est intéressant d'avoir le bouquin, et je dis après, je vous l'ai vu ce midi, c'est bien d'avoir un documentaire avant. Parce que je voudrais vous prévenir les gens, ce bouquin, il faut quand même le lire, quoi. Et il faut l'appeler, en Alsace, hein, vous connaissez le coup de l'autre, hein.
Oui.
Et c'est tellement dense, mais c'est pas un compliment, hein, attention, hein, c'est pas du tout péjoratif. C'est dense parce que manifestement, vous êtes bordés de tous les côtés.
Oui.
Parce que vous avez affaire quand même à des gens, à du lourd, et puis des gens qui sont un petit peu sauvages au niveau de la procédure, hein, des grandes firmes américaines, françaises aussi d'ailleurs. Hein. Donc vous avez détonné le truc, hein. c'est du lourd, mais en même temps du documenté, c'est sérieux, quoi.
Oui, pour la raison que vous pouvez indiquer, à la différence que quand je travaillais sur Monsanto, je n'avais qu'une seule ferme en face de moi, là, il y a plusieurs, et c'est-à-dire en tout cas l'industrie des pesticides, l'industrie de l'agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique, ça fait beaucoup de monde, et vous savez, toujours, on vous dit, faites-nous confiance, c'est très compliqué. Très compliqué, et faites-nous confiance. Eh bien moi je dis, avant d'avoir confiance, il faut savoir ce dont on parle, et le diable est dans le détail. Contrairement à ce qu'il voudrait nous faire croire que tout, ça marche grosso modo, mais non, le grosso modo, quand il s'agit de la santé...
Ça c'est les termes de
vos interlocuteurs. Oui, il me dit ça marche grosso modo, je dis grosso modo, mais vous savez de quoi grosso modo. Voilà. Donc effectivement, je le dis dans l'introduction d'ailleurs, j'ai voulu, avec mon éditeur d'ailleurs, on était bien d'accord là-dessus, non seulement me border, mais je décris un système, vraiment un système, c'est-à-dire, je montre dans le livre par rapport au film, pour ceux qui ont vu le film, c'est vraiment un outil complémentaire, j'ai voulu comprendre comment on est arrivé là, donc je suis remontée au début de la révolution industrielle, d'accord. Et j'ai découvert comment, pendant un siècle, l'industrie en général, chimique, a systématiquement caché la toxicité de ses produits, a développé un système dont le modèle d'ailleurs c'est l'industrie du tabac, dans la manipulation des données scientifiques, vous voyez, ce qu'on appelle aux États-Unis la fabrique du doute, de la confusion. Et c'est un vrai système, et pour qu'on comprenne que c'est un système, ils font plein d'exemples, avec tous les documents, qui prouve que ce que vous dites, c'est pas une lubie ou un fantasme, vous comprenez? Parce que sinon, ils vont vous dire, ouais, tout ça, c'est n'importe quoi. Voilà. Non, donc, c'est long, 500 pages et 40 pages de notes.
Une petite question comme ça au passage, avant d'écrire la première ligne, parce que j'imagine que compte tenu de votre prudence, de ce bétonnage, que c'est pour votre propre formation, évidemment, bien entendu, avant d'écrire la première ligne du bouquin, vous avez travaillé de façon non productive par rapport à l'écriture pure, pendant combien de temps?
Alors ça c'est très dur à dire.
Des mois.
Oui, c'est des mois, et puis c'est des nuits. Enfin, quand on s'attaque à un sujet comme ça, d'abord au début on est découragé parce que moi j'ai tout de suite compris qu'il fallait comprendre, qu'il fallait s'intéresser au système de la réglementation. Parce qu'une fois que vous avez clairement établi que, contrairement à ce que certains pouvaient nous faire croire, il y a véritablement, je reprends les termes de l'Organisation mondiale de la santé, une épidémie de maladies chroniques et évitable, c'est le mot qu'ils emploient, ça c'est pas très difficile, il faut rendre votre vie scientifique, il faut lire des études. Quand vous avez compris ça, vous voulez comprendre comment on est arrivé là, donc la question c'est les produits chimiques qui sont dans notre environnement, comment sont-ils testés, comment sont-ils réglementés, comment se fait-il qu'ils nous contaminent finalement. Mais ça c'est un sujet aride.
Parce que ça c'est une question justement. Quand on lit votre livre, on a vu aussi le documentaire, et dans le documentaire, j'ai le souvenir de ces vieilles images des années 60 de la télévision. C'est super habile d'avoir fait ça, d'autant qu'on les retrouve un petit peu plus tard, avec conscience. Les scientifiques dans les années 60, hein, c'est à peu près ces années-là,
64
étaient déjà en train de nous dire un discours du type, c'est pas possible qu'avec tout ce qu'on déverse sur les produits agricoles naissants sur Terre, parce qu'on on les voit d'ailleurs, les pubs des avions qui en Amérique.
Oui, on voit aussi comment ils disent dans les années 50, pour les pesticides par exemple, vous avez vu dans le film des documents d'archives qui sont destinés aux agriculteurs pour la prévention, où ils disent clairement pesticides are poisons. Les pesticides sont des poisons. C'est quelque chose qu'on dit aujourd'hui, on dit que c'est des produits phytosanitaires ou phytopharmaceutiques, c'est comme si c'était des médicaments. Vous vous rendez compte, le glissement sémantique. Et moi j'ai mis l'embrouille finalement, qui fait qu'on pense que c'est des médicaments inoffensifs, parce qu'ils soignent ce genre. Non, on disait clairement les choses.
Hein, je sais, c'est parce que bon, comme c'est du poison, c'est bien, ça respecte bien le contrat d'emploi. Hein.
Oui,
c'est vrai. Voilà, c'est américain ça. Et puis alors donc on voit ça dans les années 60, donc c'est pas hier quoi.
Non,
ça fait 50 piges, ça fait 50 piges quoi.
Oui, tout le monde a fait.
D'accord, il y a tout le monde. Donc ça veut dire aussi que personne ne sait jamais depuis vraiment, ou alors ça nous a échappé de poser la question, qui teste et comment on teste.
Le documentaire que j'ai utilisé dans mon film, qui date de 1964, qui est d'ailleurs en bonus dans le DVD, parce que je trouve intéressant de le voir en entier pour ceux que ça intéresse, pose exactement les questions que moi je me suis posée. Mais dès 1964. 1964, c'est vraiment le début de cette industrialisation, enfin en tout cas de l'entrée des produits chimiques massivement en Europe. Aux États-Unis, ça a commencé dans les années 50. Chez nous, c'est le début des années 60. Et dès le début des années 60, il y a des gens qui se disent vous, et les pesticides, vous, et les additifs alimentaires, et les plastiques. Et les états qui peuvent, évidemment, mais après, il y a le couvercle.
Bien sûr.
Alors la question c'est pourquoi le couvercle.
Alors, si je donne ma réponse, il n'intéresse personne, par contre, à vous qui m'intéresse.
Alors il y a plusieurs raisons, à mon avis. La première qui nous concerne tous, c'est que ça se passe dans l'euphorie des trente glorieuses, de la société de consommation de masse, l'idéologie du progrès, qui fait que tout le monde va revendiquer, y compris les syndicats dans les usines, il y aura plein de morts dans les usines, mais on manque d'emploi, excusez-moi, hein, je dis ce que je pense vraiment sincèrement,
ce que vous pensez, ou ce que vous savez.
Je sais, oui, mais vraiment, ce que j'ai constaté, c'est-à-dire le progrès va faire que tout le monde va s'en aller à cette notion, et va fermer les yeux sur les dégâts sanitaires et environnementaux qu'induit le progrès. Et ça, c'est très clair dès le début du XXe siècle. Moi j'ai été très frappée de constater comment, parce qu'aujourd'hui tout est disponible sur internet, vous pouvez acheter des études qui datent de 1906, des études qui datent de 1920, il suffit d'acheter et de trouver des bons centres. Vous voyez, en ligne, il y a par exemple Medline, qui est une banque de données scientifiques, ou PubMed, et vous achetez tout ce que vous voulez. Et bien, dès les années 1905-1910, on constate dans les usines, par exemple, j'ai pris l'exemple du Bavel, un produit qui nous a beaucoup contaminé, qui continue de contaminer aujourd'hui, ou l'essence au plomb dans les années 20, ou le chlorure de vinyle qui est le PVC. En fait, on constate des maladies qui n'ont jamais existé dans les usines, des ouvriers qui perdent leur mâchoire, qui les allègent, des mains, vous verrez, qui perdent leur phalange. Dans une autre usine, les vapeurs de produits chimiques sont tellement dangereux que les femmes sont atteintes neurologiquement et elles ont des comportements licencieux. Donc on leur fait prendre un train à part pour arriver dans l'atelier parce qu'elles se déshabillent. Enfin, c'est incroyable. Et on donne ça froidement parce qu'on estime que c'est le coût du progrès. Il y a même des journalistes qui vont écrire dans la presse. Effectivement, il y a eu tant de morts à cause de l'essence au plomb, par exemple, dans telle usine. Mais on a besoin de l'essence au plomb, voilà. Donc quand je veux dire idéologie du problème, nous y participons tous parce que nous avons tous profité de ce progrès. Et c'est une chose que je tiens vraiment à souligner, parce que si on veut que le système évolue, il va falloir remettre en cause ce mode de développement et cette notion du progrès qui finit par dévorer ses propres enfants.
Alors, vous citez les ouvriers des usines qui sont tombés malades, avec des exemples qui font froid dans l'eau. Mmh. Dans mon film, j'ai aussi entendu un agriculteur, je ne sais plus quelle région en France, qui convoque un petit peu dans sa ferme, et ensuite il y a une réunion dans un autre endroit, et qui témoigne, lui, il est malade, il est sérieusement atteint manifestement par tous les produits qu'il a balancés, même en respectant certaines précautions. Et il se souvient qu'il avait mis en garde ses collègues agriculteurs et que les autres lui ont dit, tu écrases, tu dis rien. En un mot, tu nous emmerdes, hein, parce qu'il faut produire. Hein. Donc, l'aveuglement, entre guillemets, va très loin.
Oui, alors ça s'est passé à Ruffec il y a un an, et il y a 3 jours j'étais de nouveau à Ruffec, où les mêmes agriculteurs se sont de nouveau réunis, et maintenant ils sont 100. Ils ont créé une association qui s'appelle Phyto Victimes, et ils vont essayer de s'organiser pour éventuellement porter plainte contre les fabricants et possiblement contre les pouvoirs publics. Alors ça c'est très important, c'est un sujet auquel je tiens particulièrement parce que je suis moi-même fille d'agriculteur, je suis née dans le Poitou-Charentes sur une ferme. Et j'ai vu les dégâts de la Révolution verte que mes parents ont largement promu, je le dis parce qu'ils le reconnaissent eux-mêmes et ils s'en sont très tristes aujourd'hui. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est toujours l'idéologie du progrès dont je parlais tout à l'heure. Il y a des gens qui ont de bonne volonté qui ont défendu cette idéologie du progrès. Donc le problème, c'est que c'est pas le progrès en soi, le problème c'est que dans tout ce système, il y a eu beaucoup de mensonges. C'est la deuxième raison pour laquelle nous en sommes arrivés là. Mon père, qui a 75 ans aujourd'hui, un beau-frère qui a un cancer de la prostate, un collègue sur la ferme qui est mort d'un cancer du foie très rapidement, un autre qui a un cancer de la peau, un cousin qui a Parkinson, il y a toutes les maladies des agriculteurs qui peuvent être reconnues aujourd'hui d'ailleurs en maladies professionnelles par la mutualité sociale agricole, il faut bien le souligner. Et bien elle me dit que mon père c'était un militant de la JAC, la jeunesse agricole catholique, je ne sais pas si vous avez connu ça dans les campagnes ici, mais j'imagine que oui, parce que c'était partout en France. Et un mouvement qui a fait beaucoup évoluer le monde rural, et me disait, nous, on était persuadés qu'il fallait être moderne et qu'il fallait nourrir le monde. Alors il me dit aujourd'hui, mais pourquoi on voulait nourrir le monde? Déjà, nourrir notre pays, c'était pas mal. Pourquoi est-ce qu'on devrait nourrir le monde? C'est une des questions très importantes qui sera l'objet de mon prochain film et livre. Comment peut-on nourrir le monde? Enfin voilà.
Oui, et vous avez proposé des solutions.
Voilà, je vais proposer des solutions, on pourra en parler après. En tout cas, elle me dit, moi, jamais j'ai pensé quand le. Juste avant ma naissance, je suis née en 1960, les premiers tracteurs sont arrivés sur la ferme, les bidons d'atrazine, je ne sais pas si ça vous dit, ça ou pas, l'atrazine, un herbicide qui est interdit aujourd'hui depuis 6 ans, mais qui continue de polluer les ressources en eau. Il y a une étude qui vient de sortir récemment, faite par une ferme en Bretagne, qui montre qu'on trouve encore dans les urines des femmes enceintes des résidus très très faibles d'atrazine, et on a fait une corrélation entre le niveau de résidus qu'on trouve et le poids du bébé à naissance, qui est beaucoup plus faible, et le périmètre crânien. Donc, c'est pour vous dire, l'atrazine est un perturbateur endocrinien. Vous avez vu dans mon film, pour ceux qui l'ont vu, ce sont des molécules chimiques qui sont des hormones de synthèse et qui ont des. On va peut-être en parler après parce que c'est vraiment.
Non, sûrement pas.
Voilà. Donc voilà. Alors, on a vu l'atrazine, on ne nous a jamais dit que l'atrazine allait changer le sexe des poissons dans les rivières. Et ce que je peux vous dire, c'est que les fabricants, eux, savaient en revanche que c'était des produits très toxiques. Donc il y a vraiment un problème. On ne peut pas jeter la pierre aux agriculteurs, donc je le dis très clairement. Il faut même les soutenir pour sortir du silence et puis avoir le courage de retourner à une agriculture respectueuse de l'environnement et de la vie, tout simplement. Hein. Mais la responsabilité, elle incombe largement, et là je le dis clairement, aux industriels qui ont tout fait pour maintenir sur le marché des produits dont ils savaient qu'ils étaient hautement toxiques, avec le silence tacite des pouvoirs publics, au nom du progrès.
Alors venons-en justement au problème des pouvoirs publics. Après, on regarde aux perturbateurs endocriniens, vous allez nous donner des exemples. Samedi, au club de la presse à Strasbourg, vous étiez invité, vous avez longuement parlé des industriels, et on va en parler ici bien sûr, mais très peu parce que la question ne vous a pas été posée, voilà, je me la pose ce soir sur les pouvoirs publics. Parce qu'au fond, si j'ai bien compris les leçons de l'éducation civique qu'on m'a fait, mais c'était comme vous il y a longtemps, il y a des décisions.
De moral, moi c'était.
Sauf que le monde a changé un petit peu, mais ces gens-là, on les élit, du moins dans nos pays démocratiques, mais autour, on les élit pour le bien de la société, c'est-à-dire que je suis mais on les élit pour ça. Il n'est pas concevable une seule seconde qu'il n'y ait pas eu, dans les 50 dernières années, un ou deux ministres de l'Agriculture, d'autant qu'il y a des gens très célèbres qui ont été longtemps ministres de l'Agriculture, qui sont même arrivés au pouvoir et aux manettes tout en haut, hein, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas possible que ces gens-là aient été des innocents. Ça, ils le savaient. Si les pouvoirs publics ne font pas le ménage, qui peut le faire?
Alors, ils savaient jusqu'à un certain point, ça c'est sûr. Ce qui est sûr aussi, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, le progrès, c'était aussi admettre, accepter qu'il y a des dégâts sanitaires et environnementaux. On a espéré qu'on pouvait les maintenir le plus bas possible. C'est pour ça que vous avez réfléchi, c'est bien, on a plein d'agences maintenant qui font l'évaluation du risque, vous savez, pour le médicament, pour l'alimentation. On est dans ce que le sociologue allemand, alors pour ceux qui aiment la sociologie, je vous invite à lire un livre extrêmement extraordinaire, qui est sorti en 1986 au moment de Tchernobyl, et qui s'appelle, oui, voilà, la société du risque, de Ulrich Beck. On est dans la société du risque, c'est-à-dire une société dans laquelle nous sommes tous exposés à des risques, risque dont on considère qu'il fait partie du progrès. Hein. Et évidemment, ce que tout le monde essaie de faire, c'est d'éviter au maximum d'y être confronté. Mais le risque est partout, c'est pour ça qu'il y a toutes ces agences. Hein. Sinon, s'il n'y a pas de risque, il n'y a pas besoin de faire une agence qui s'occupe des médicaments, une agence qui s'occupe de la sécurité des aliments. Non. Alors, je pense qu'encore une fois, beaucoup d'hommes politiques ont toujours considéré qu'il y avait un risque, mais qu'il fallait mesurer versus un bénéfice supposé. D'accord ? L'évaluation du risque, c'est ça. C'est-à-dire, on prend les pesticides. Bon, eh bien, on va dire, oui, sans pesticides, on ne peut pas avoir de rendement important, on ne peut pas nourrir le monde. Voilà, alors ça c'est le bénéfice. Il y a des risques, effectivement, on va faire en sorte qu'ils soient le plus bas possible, donc on va mettre en place un système qui va faire que les paysans soient moins exposés, le moins possible, les consommateurs aussi. Et voilà. Alors, quand le problème, c'est que cette évaluation, elle ne marche. Moi, j'ai rien contre qu'on fasse une évaluation risque versus bénéfice. À condition que les dés ne soient pas pipés. Et les dés sont pipés. Pourquoi ils sont pipés? Parce que cette évaluation, elle est faite à partir d'études qui sont fournies par les fabricants des produits en question.
J'en viens à la question tout à l'heure.
Et comment? Et voilà. Et vous avez bien vu dans mon film, et vous l'avez vu en détail dans mon livre, que malheureusement, toutes ces agences de réglementation, elles donnent leurs avis à partir de données toxicologiques qui sont fournies par les fabricants. Lesquelles données toxicologiques, vous avez vu dans mon film, sont couvertes par le secret commercial, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas publiques.
Expliquez ça.
Alors, on peut comprendre qu'il y a un secret commercial quand vous avez un processus de fabrication avec un brevet, parce que je ne sais pas, un industriel a passé 20 ans à développer une nouvelle machine et il a se protégé avec un brevet. Ça, c'est d'accord. Et dans ce cas-là, les données du processus de fabrication sont couvertes par le secret commercial. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les prendre publiques pas parce qu'on a peur que la concurrence s'en empare. Mais des données toxicologiques, c'est autre chose. Vous me suivez? Données toxicologiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour pouvoir être mis sur le marché, normalement, un produit doit subir une série de tests qu'on va faire sur des animaux, en général, hein, parce qu'on ne peut pas le faire sur des humains. Sinon...
C'est vrai qu'on va essayer.
Oui, c'est vrai qu'on va essayer, ça va être fini par ce qu'on appelle le tribunal de Nuremberg, et ça s'appelle des crimes contre l'humanité. Donc, on ne peut pas le faire sur des humains. Soit en passant, comme on les fait très mal, ces tests sur les animaux, au bout du compte, c'est nous les cobayes, hein, on pourrait y revenir, mais c'est ça qui se passe en réalité. Hein. Et à ciel ouvert. Hein. Voilà, alors, en tout cas, on leur demande de faire ça. Alors, ils vont faire des études sur des rats, des souris. C'est assez extraordinaire quand on tombe là-dedans, si j'ose dire. Parce que bon, moi, je ne suis pas une adepte de Brigitte Bardot, mais quand même, de voir qu'il a fallu massacrer des millions d'animaux dans les laboratoires pour pouvoir assurer notre sécurité, je trouve qu'il y a quelque chose de très choquant. Parce que vous comprenez que si on vend ces tests, c'est qu'on sait que c'est des poisons. Hein. Si ce n'est pas des poisons, on ne fait pas de tests, vous avez compris. Hein, donc, voilà. Alors, on fait des études sur les animaux. Les études sont ensuite, les résultats des études sont transmis aux agences de réglementation. Il faut noter que ces études ne sont jamais publiées, ou très très rarement, dans des revues scientifiques, un comité de lecture. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est. C'est des grandes revues comme Science, Lancet, Nature en fait. Bon. Qui sont des revues où un laboratoire soumet à publication une étude, transmet les données, lesquelles sont analysées et l'étude, est analysé par un comité de scientifiques qu'on appelle des pairs, P-A-I-R, hein, et qui donne leur avis, et ensuite l'étude est publiée. Alors c'est normalement comme ça que ça marche, d'ailleurs, et c'est aussi une garantie, entre guillemets, même s'il peut y avoir, vous verrez dans mon livre, des exemples, des études très très mal faites sont quand même publiées. Mais enfin, quand même, c'est quand même un moyen de faire progresser la science, et puis la règle de ce principe, c'est que si un scientifique extérieur à l'étude veut avoir accès aux données brutes, toutes les données d'études, il peut les demander. Vous avez compris ? Bon, les pesticides ne sont jamais publiés dans les revues scientifiques à comité de lecture. D'ailleurs, quand je pose la question à pas n'importe qui dans mon film, celui qui dirige un département très important au Centre international de recherche sur le cancer qui dépend de l'OMS, qui est à Lyon, et je lui dis, mais comment ça se fait, comment vous expliquez ça ? Il me répond, parce que ce n'est pas de l'intérêt des fabricants de pesticides de publier des données qui sont qui montrent qu'il y a des problèmes. Hein. Vous comprenez ? Donc c'est vraiment assez gênant. Alors, en revanche, les études en question, qui ne sont jamais publiées, sont transmises aux agences de réglementation. Elles sont examinées par des experts. Alors, le problème, c'est que quand vous vous intéressez à cette question, vous découvrez des experts. D'abord, et on ne sait pas trop comment ils sont choisis. Hein. Très souvent, ils ont des conflits d'intérêts, c'est-à-dire qu'ils travaillent aussi pour des fabricants. Alors ça, en soi, vous pourrez comprendre, parce que c'est pas forcément facile de trouver un expert aujourd'hui, avec la privatisation de l'université notamment, qui n'a jamais eu lien avec l'industrie. Mais dans ce cas-là, on devrait avoir un système où, par exemple, lors des réunions des experts qui vont rendre leur avis, il y a des observateurs extérieurs, par exemple, d'associations qui ont un savoir-faire.
Des vigies, quoi.
Oui, qui sont là, qu'on puisse avoir accès aux données brutes, si par exemple une association a un doute sur un produit, et bien on le donne, et voilà, et puis elle fait son examen, et puis on... Mais, et tandis que là, ça se passe tout à huis clos, les données ne sont pas publiques, ne sont pas accessibles, sont couvertes par le secret commercial, comme s'il s'agissait d'un secret de fabrication, vous comprenez ? Alors qu'encore une fois, ce sont des données toxicologiques, donc tout le système est absolument... Alors vous avez vu ce qu'il me répond dans le film, parce que j'ai quand même interviewé 17 représentants des agences de réglementation, c'est pas rien, ils me disent tous qu'il faut nous faire confiance. Ah oui, mais... faire confiance... Il y a un moment, la confiance, elle gagne, et la confiance, elle ne peut être obtenue que s'il y a un minimum de transparence dans le dispositif. Il n'y a pas de transparence dans le dispositif. Et on l'a vu plein de fois. D'ailleurs, dans le film, j'aborde la question du tabac. Je suis à ce moment-là à Genève, à l'Organisation mondiale de la santé, et je dis, écoutez, vous pouvez faire confiance, mais pour le tabac, par exemple, l'OMS a été mis en bateau pendant les années par l'industrie du tabac, qui avait fait des fausses études. Vous avez vu, il dit oui, mais ça n'a rien à voir avec les pesticides. Je dis, mais qu'est-ce qui me prouve que ça n'a rien à voir avec les pesticides, que c'est le même système. Donc voilà. Donc, c'est ça le problème. Alors, les agences de réglementation, elles ne sont pour bien comprendre une chose. Elles sont là pour évaluer, et ensuite elles transmettent des avis aux politiques qui, eux, gèrent. Donc il y a les évaluateurs du risque, et il y a les gestionnaires du risque, attention. Hein. Alors, le problème maintenant, et je dis que la balle est dans le corps des politiques, parce qu'autant on peut imaginer que la plupart des hommes politiques ne savent pas tout ce que j'ai mis 2 ans à découvrir, mais il y a un moment, on ne peut plus dire qu'on ne sait pas. Voyez et il y a un moment, il faut de la volonté politique, vous comprenez ?
Marie-Monique, on n'est pas sorti de l'auberge, parce que moi je me rappelle, ici à Strasbourg, il y a une dizaine d'années, avoir reçu en interview Corinne Lepage.
Oui, qui fait un très bon travail.
Elle est avocate, écologiste, et puis on a déjà un petit peu oublié, qui fut brièvement ministre de l'écologie sous le gouvernement Juppé, au milieu des années 90, elle a fait partie des Juppé, comme elle dirait. Et qui me parlait, c'était il y a 10 ans, hein, qui me parlait de la directive européenne REACH. Ça n'a rien à voir avec les pesticides, ce sont enfin...
Les pesticides ne sont pas concernés, mais voilà. Ça concerne tous les autres produits chimiques.
Ça concerne les molécules chimiques. Et à l'époque, elle émettait déjà des doutes parce que la directive REACH était en train d'être discutée. Et elle me confiait au micro, et même au micro, dans une soirée longue qu'on a passée ensemble, qui m'a pas mal foutu le chiton d'ailleurs, que c'est... c'est marrant, c'est toujours des femmes qui nous font ça.
C'est normal. Je peux vous expliquer pourquoi.
Volontiers. Bon, ceci dit, blague à part, elle m'avait dit, attention, je suis, c'était il y a 10 ans, hein, bien avant l'application formelle, le vote, etc. Je suis à peu près certain qu'il va y avoir un lobbying d'enfer qui va se mettre en route et qu'on va de loin pas tester toutes les molécules existantes. Elle ne parlait même pas de celles qui vont être créées, les molécules existantes. De fait, ça n'a pas loupé. nos amis, en particulier ceux de l'outre-mer, pas vraiment de chez nous, là, hein, du côté de l'ASF, de l'XAFM et tout le bazar, ont fait un lobbying d'enfer, et si mes renseignements sont bons, seulement 12 000 molécules ont été testées. Alors, je ne sais pas combien.
En fait, il y a 100 000 molécules. Voilà. On estime qu'il y a 100 000 molécules qui ont été libérées dans l'environnement depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et que seuls 10% ont été testées. Et sur les 100 000, 2 à 3 000 seulement ont eu des tests pour vérifier leur potentiel cancérigène. Donc, c'est pour vous dire, c'est vraiment... Alors, REACH, bon, moi je dis, mais en général, ça va dans le bon sens, quand même.
Méthodiquement.
Oui, parce que vous avez raison, il y a eu un tel lobbying que ça a été revu à la baisse, c'est clair. Aujourd'hui, donc, ils ont retenu 12 000 molécules dont ils savent qu'elles sont très toxiques. Alors, comme on le sait, on peut les retirer du marché tout de suite. Ils ont donné 5 ans aux entreprises pour donner des données, justement, pour fournir des données qui prouvent le contraire éventuellement.
Je m'en vais pourquoi 5 ans.
Ben oui, parce que pendant 5 ans, ça leur laisse le temps de se retourner et d'en mettre une autre sur le marché, c'est ça en fait. Hein. Et voilà. Et bon, c'est dommage, on perd du temps, surtout pour un certain nombre de molécules dont on sait vraiment qu'elles sont très dangereuses, ils sont plusieurs centaines, mais très dangereuses. Et puis en revanche, pour les nouvelles molécules, alors maintenant, effectivement, la charge de la preuve et sur les industriels. C'est-à-dire qu'avant, on ne testait pas très mal les produits, et, alors ça c'est encore une leçon que j'aimerais que vous compreniez, on utilisait une méthode qu'on appelle aux États-Unis la méthode de compter les morts dans la morgue. Alors ça c'est très brutal, mais c'est comme ça, c'est-à-dire, l'épidémiologie, ce sont des scientifiques très importants d'ailleurs, mais qui vont constater les dégâts, si vous voulez, hein, sur au bout de 30 ans. Alors, c'est bien de le faire, mais ça serait bien d'agir avant qu'on constate les dégâts. Et donc, c'est ce qu'on a fait avec l'amiante, par exemple. On savait depuis les années 1930 que l'amiante était liée à un cancer très rare, tellement rare qu'on appelle le cancer de l'amiante, le mésothélium, et on a attendu qu'il y ait plein de morts, et surtout que les familles s'organisent pour finalement l'interdire. On a perdu 50 ans. Et on l'a fait pour toutes les molécules. Alors, sauf que pour plein de molécules, et c'est ça la chance des fabricants, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, mais je vais me répéter, mais pour une femme qui a un cancer du sein, alors je vais vouloir en faire un petit test. Qui connaît quelqu'un qui a un cancer du sein? Ben voilà, vous voyez.
Plusieurs.
Plusieurs, bien sûr. C'est le cancer le plus, enfin, vous prenez les données, hein, en pleine explosion. Et il y a plein de raisons d'avoir un cancer du sein aujourd'hui. Alors, le fait que les femmes ont des enfants plus tard, c'est un facteur, vous n'allez pas, c'est un autre facteur, mais au-delà de ça, les facteurs principaux, c'est ces molécules qu'on appelle les perturbateurs endocriniens, qui sont
oui, partout.
Allez, partout. Hein, voilà, les perturbateurs endocriniens, j'ai retracé l'histoire de ce thème, parce que j'ai retrouvé, quand j'ai interviewé Théo Colbom, qui est une vieille dame de 82 ans, qui a, pour la première fois, découvert ce qu'étaient les perturbateurs endocriniens. C'est assez fabuleux, je raconte tout ça dans mon livre, c'est une histoire absolument incroyable. C'est une zoologue américaine qui a commencé à travailler sur les animaux, évidemment, des grands lacs, alors les poissons, tous les animaux, les mammifères qu'il y avait là. Elle a constaté que dans les années donc, 80, ils avaient tous en commun des problèmes de malformation congénitale, de problèmes de reproduction, de stérilité, et des problèmes de déficit immunitaire. Et puis du coup, elle a commencé à contacter plein de scientifiques qui partout dans le monde constataient la même chose. Et puis un jour, elle s'est dit, mais c'est quoi ça? Elle raconte ça, c'est assez extraordinaire, parce que personne, on pensait tous, enfin, dans ces années-là, on pensait surtout au cancer, hein. Et on avait un modèle, c'était les irradiations du pied, hein. Oui, moi je parle autrement. Mais on n'a jamais, on ne savait pas qu'il y avait des molécules qui pouvaient être des hormones de synthèse, donc, et qui agissent sur le corps d'une autre manière qu'une radiation, qui n'entre pas dans son mutation génétique, vous comprenez, qui agit d'une autre manière. Les hormones, vous savez comment ça marche dans notre organisme, ce sont des glandes, hein, qui les produisent sur la thyroïde, etc., les ovaires, et ce sont des messagers, en fait, hein, les hormones. Il a fallu que Théo Colbom étudie un millier d'études éparses qui constataient que, par exemple, les crocodiles en Floride se reproduisaient de plus en plus difficilement, et quand on faisait des autopsies, on trouvait des ovaires dans les testicules, par exemple, des crocodiles. ou que les grands aigles, vous savez, qui sont le symbole des États-Unis, eh bien, avaient des comportements bizarres. Ils se mettaient en couple avec deux femelles par nid, donc du trouble de comportement dû à un problème de trouble d'identité sexuelle. Enfin, et là, elle a commencé à dire c'est quoi. Et là, on a découvert que finalement, tout c'était lié à des molécules qu'on utilise. Alors, dans les plastiques, par exemple, c'est le cas du bisphénol A, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, parce qu'on l'utilise comme plastifiant, notamment dans les biberons en plastique, vous savez, alors, mais aussi tous les récipients en plastique dur,
les canettes de soda,
les bonbonnes, les boîtes de conserve, etc. Aussi dans les ciments dentaires, aussi, donc ça c'est terrible, quand vous avez un bébé qui est prématuré dans les poches, vous savez, dans les sacs, pour faire des perfusions, il y en a là aussi. Alors voilà, elle a découvert que ça pouvait être le DDT, qui est un insecticide aujourd'hui est interdit en agriculture, qui va être complètement interdit, y compris pour la lutte contre la malaria apparemment, et heureusement, qui est aussi une activité hormonale. Et ça peut être dans les shampoings, les phtalates qu'on retrouve dans les désodorants, qu'on retrouve dans les odorants corporels, mais aussi des odorants que vous mettez dans les toilettes, tout ça à la poubelle, hein, tout ça à la poubelle. Hein. Ça peut être des pesticides, parce qu'évidemment, un herbicide par exemple, c'est un produit qui atteint le développement de la plante, et pour ça, on met des hormones pour empêcher la plante de grandir. Et ils ont tous en commun, ces molécules ont tout en commun, le fait qu'elles imitent les hormones naturelles que nous avons dans notre organisme. Et c'est pourquoi, et c'est ça qui est dramatique, vraiment, moi c'est ça qui m'a beaucoup touchée, parce que je suis mère de famille aussi, j'ai trois enfants, et c'est, vous comprenez, elles agissent à des doses très 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 faibles, et ont un effet particulièrement nocif sur les femmes enceintes, parce que, évidemment, un fœtus, quand il se développe, ce n'est qu'un processus hormonal. Alors, par exemple, l'exemple qu'on donne toujours, c'est que au 43e jour de la grossesse, c'est là précisément qu'il y a une hormone qui va se déclencher, qui va s'accrocher à un récepteur et qui va déclencher une réaction chimique qui va être la phase initiale de la production des testicules du futur petit garçon. Si ce jour-là, la maman prend une boîte de conserve qui a le bisphénol A, le bisphénol A va prendre la place de l'hormone, va s'accrocher au récepteur, et comme c'est un leurre, c'est pas exactement la même chose, ça va bloquer le système, ça va l'enrayer, et ça va déclencher des maladies chez son bébé. Après, alors soit c'est des malformations congénitales, soit c'est des cancers de la prostate, c'est des cancers du sein, c'est des cancers hormonodépendants, soit c'est le diabète, soit c'est l'obésité, c'est toutes les maladies chroniques qui sont en pleine expansion aujourd'hui. Et ça, donc ça, c'est des perturbateurs endocriniens.
Ça, c'est nouveau, c'est nouveau. Je ne suis pas un spécialiste, mais je voudrais écouter autant que j'ai lu. C'est nouveau, cette théorie, parce qu'avant, il y avait la dose admissible, cette espèce de lente mèche tournante qui faisait que si, ma foi, on ne la dépassait pas, etc., on pouvait s'en sortir. Sauf que là, vous nous dites exactement le contraire, parce qu'une une molécule ingérée, le terme n'était pas juste, à un moment clé
du développement peut avoir des effets.
Peut avoir des effets.
Oui. Alors, ce à quoi on fait référence,
c'est la dose
invisible. Voilà, alors tout le principe de l'alimentation est basé sur un principe qu'on appelle la dose fait le poison. Alors ça a été inventé par un médecin suisse au XVIe siècle, et ça marche pour certaines molécules. Effectivement, vous connaissez tous l'histoire, bon, si vous, le principe c'est ça, hein, donc plus la dose est importante, plus l'effet sera important. Il y a une relation linéaire entre la dose et l'effet. D'accord ? Alors, dans les années 50, ce qu'il raconte dans mon film et dans mon livre, il y a un Français qui s'appelle René Truot, qui est un toxicologue, qui a eu une idée très généreuse d'ailleurs, parce qu'il faut lui reconnaître ça. Il s'est dit, il y a des poisons partout. Vous l'avez vu dans mon film, il est clair, hein. Des poisons partout. Alors, ce qui est intéressant, c'est que des poisons, y compris dans la chaîne alimentaire, les additifs alimentaires, les pesticides. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'à aucun moment, ce monsieur qui est très célèbre et très bon toxicologue n'a remis en cause le fait qu'on utilise des poisons dans la chaîne alimentaire. Toujours au nom du progrès, j'en reviens toujours. Hein. Il ne dit pas, c'est des poisons, alors il retire, hein. Pas besoin d'un poison. Non, pour lui, ces poisons présentent un bénéfice technologique, voilà, pour les fabricants, et c'est un mal nécessaire. Le problème, c'est de voir comment faire en sorte de réduire l'impact. Alors, comme il est à la lettre de Paracels, comme tous les toxicologues de l'époque, persuadé que la dose c'est le poison, c'est lui qui va inventer ce concept qu'on appelle la dose journalière acceptable, la DJA, qui est donc la dose de poison qu'on est censé pouvoir ingérer tous les jours sans tomber malade. C'est là qu'on fait des études sur les animaux, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Et vous avez vu dans mon film, j'ai fait un petit dessin animé parce qu'il faut quand même comprendre, rentrer dans cette logique complètement incroyable. Quand même, on réfléchit bien, on essaie de calculer une dose de poison qu'on peut manger tous les jours pour les malades. Hein, c'est ça le principe. Donc on va prendre des souris ou des rats ou des lapins. D'abord, on calcule la dose létale. C'est la dose qui tue la moitié des animaux. Alors, on voit, tiens, là, la moitié sont morts. Bon, d'accord, là, c'est trop fort, hein, vous baissez la dose. Hein, c'est mort. Après, on baisse la dose. Et puis là, on dit, on observe les effets. On dit, ouah, là, les foies, là, j'ai les foies, alors que la dose est trop élevée. Donc on baisse, jusqu'à ce qu'on trouve une dose qu'on appelle, dans ce jargon absolument incroyable de l'évaluation du risque, on appelle la dose sans effet toxique observé. Je traduis de l'anglais, hein. En anglais, NORL. La dose sans effet toxique observé sur les rats et les souris. Bon, en sachant, il faut que ces études soient bien faites. Il y en a qui me disent, d'ailleurs, il y en a carrément qui me disent, si les études sont mal faites, on ne voit rien. Bon, très bien, déjà, c'est... Deux, c'est des études qui font en général en 90 jours, mais si vous avez vu ce qui est passé, et parce que pour des maladies chroniques, vous voyez ce que ça veut dire, des maladies chroniques sont des maladies qui ont un temps d'intense. Bon, l'idéal, c'est 2 ans, c'est très rare, ça coûte cher. Voilà, alors, en plus, ils sont dit, la dose sans effet observé, d'accord. Les rats, les souris, ce n'est pas des hommes, vous êtes d'accord, on va adopter ce qu'ils appellent un facteur de sécurité. Alors, ils se sont dit, mais tout ça sur un Bell-Tab, hein, parce que moi, c'est-à-dire sans aucune étude pour trouver si c'était bien valide, tout ça, on a dit, on a divisé par 10 la dose sans effet observé sur les rats et les souris, vous suivez. Et après, on se dit, bon, il y a les personnes âgées, les femmes enceintes, c'est un peu plus sensible. Alors, on va encore rajouter 10, donc on va diviser par 100 la dose sans effet observé sur les rats et les souris, et ça va faire la dose, j'en ai dit, acceptable que nous, les humains, on est censé pouvoir ingérer tous les jours. Et comment ça s'exprime? Vous m'avez suivi? Allez, il faut rentrer là-dedans, hein, il faut un petit peu d'effort, hein. Parce que c'est quand même, vous rendez compte, hein, on parle de poisons qui ont tué la moitié des rats il y a peu de temps avant, hein, d'accord. Donc, et qui vont se retrouver dans nos aliments, hein, vous avez compris. Hein. Alors après, une fois qu'ils ont fait ça, ça s'exprime comment? Ça s'exprime, pour un pesticide par exemple, en milligrammes de substance, de poison, par kilo de poids corporel. Alors je vous donne un exemple, si un pesticide a une DGA, donc dose journée, etc., de 0,1 mg par kilo de poids corporel, d'accord, et que vous avez un peu de 60 kg, vous avez le droit de manger de ce pesticide tous les jours 60 fois 0,1 mg, donc ça fait 6 mg par jour, d'accord. Vous avez pas.
On peut appeler la sécurité parce que madame est en train de défaillir.
Alors, mais c'est pas fini. Parce que madame, par exemple, on va prendre un pesticide très 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 utilisé, par exemple le Roundup de Monsanto. J'espère au hasard. Voilà, un jour dans un mois, donc j'espère qu'il n'y a plus aucune bouteille dans les cabanons à jardin. Hein, j'espère. Qui c'est qui a des Roundup chez lui là?
C'est pas gagné ça.
C'est pas gagné. Hein. Qui ose le dire là?
Bon. Ouais, je vois des gens qui baissent la tête.
Bon, on prend le Roundup, on a aucun pesticide. Il y en a qui sont utilisés sur 30, 40, 50 fruits et légumes. D'accord? Alors, on a la dose journalière acceptable, qu'on peut manger tous les jours. Mais comment savoir si nous ne l'avons pas atteint? Alors, ils ont inventé un deuxième système, qui s'appelle les limites maximales de résidus autorisés sur les fruits et légumes. C'est-à-dire que, mais vous rendez compte, mais vous allez voir, si pour ceux qui n'ont pas vu le film, qui n'ont pas lu mon livre, parce que ça, ils sont aujourd'hui, c'est normal, c'est des milliers de chiffres, plein d'experts qui se réunissent, plein d'études, des machins. Alors, ils vont demander aux fabricants, toujours aux fabricants, mais les données toujours couvertes par le secret commercial, hein, et bien de faire des mesures en champ, vous appelez ça. Donc, vous passez le pesticide sur un champ de patates ou un champ de fraises, et selon les normes préconisées par le fabricant, hein, c'est-à-dire... si on vous dit qu'il ne faut pas le passer 15 jours avant la récolte, il faut faire tout comme il faut dans le mois. Non, ça c'est pareil, qui vérifie vraiment. Et après, vous passez le pesticide et vous mesurez le résidu du pesticide en question qui reste sur les fraises, d'accord? Et là, vous constatez que ce qu'utilisé sur les bonnes pratiques agricoles, il reste 0,1 mg. Voilà. Et après, vous dites, ah oui, mais il y a aussi les prunes, les tomates, les courgettes. Alors vous faites ça pour tous les fruits et légumes pour lesquels le pesticide peut être utilisé. Et après, vous vous dites, madame, combien de pommes mangez-vous par an? Alors, ils font des modèles de consommation. continent par continent, et on prend compte des végétariens qui mangent plus de fruits et légumes, les autres qui mangent moins, etc., etc. Et là, ils se disent, par exemple, les pommes, extraordinaire comme les Français. Je dis, mais comment vous savez, par exemple, combien de pommes mange un Français? Eh bien, on prend la production annuelle de pommes en tonnes par an en France. De laquelle on déduit la quantité qui est exportée, à laquelle on rajoute la quantité qui est importée, qu'on divise par nombre d'habitants. D'accord? Ça fait qu'on mange tant de pommes en moyenne par jour. Sur chaque pomme, il y a en moyenne telle quantité de résidus de pesticides. Donc, avec tout ça, on fait un impact, et à la fin, on se dit, eh bien, pour ne pas atteindre la dose journalière acceptable du pesticide, vous m'avez suivi, il faut donc pas autoriser plus de tant de résidus par courgette, par patate, par tomate. C'est incroyable. Et quand vous mettez le nez là-dedans, et vous dites, on est dans un monde de fou, excusez-moi l'expression, hein, parce qu'en plus, on découvre après, alors ça c'est la dose de poison, d'accord? La dose de poison, c'est-à-dire que, le problème c'est que, on fait ça pour chaque pesticide, enfin, supposé qu'on l'ait fait, parce que vous avez compris, 10% des produits chimiques ont été testés, pour ceux qui ont été. Mais il y a plein de pesticides. On n'a jamais pensé à un truc tout bête. C'est que quand vous mangez votre pomme, par exemple, il y a 40 résidus de pesticides, parce que les pommes, c'est 40 pesticides appliqués. Différents. Ils ont chacun leur DGA et leur limite maximale de résidus. Mais vous savez bien, quand vous allez chez le pharmacien, vous prenez un médicament. Il va vous dire, ou votre médecin va vous dire, vous prenez ce médicament, attention, parce que si vous prenez cet autre médicament, des cocktails, on n'a jamais tenu compte de la réglementation de ce qu'on appelle aujourd'hui l'effet cocktail. Et vous verrez dans mon film et dans mon livre que les études qui ont été faites là-dessus, au Danemark, aux États-Unis, je suis allé en Californie, je suis au Danemark, je suis en Angleterre, c'est absolument des vraies bombes chimiques, c'est-à-dire qu'ils ont testé séparément à des niveaux très bas des résidus de pesticides qui n'avaient pas d'effet sur les animaux. Mais quand il est mélangé, c'était 60%, 0 plus 0 plus 0 égale 60, on va dire, % de malformation végétale et de cancer. Donc c'est des bombes chimiques. On n'a jamais tenu compte de ça. Et puis pour en revenir aux perturbateurs endocriniens, comme je vous le disais, les hormones, ce sont des messagers qui agissent en s'accrochant à des récepteurs qui vont déclencher ensuite des réactions chimiques, hein, biologiques. Et là, on sait, il y a plein d'études qui le montrent, que ce n'est pas la dose qui fait le poison, c'est le moment de l'exposition. Et même avec les hormones, on peut constater que à cette dose journalière acceptable qu'on a soi-disant mesurée sur des rats et des souris pour lesquelles on n'a pas constaté d'effet, il n'y aura effectivement pas d'effet à cette dose, mais si vous descendez à des doses très basses, 10 puissance moins 6, 10 puissance moins 9, vous avez des résultats très, très importants. Parce que quand une hormone de synthèse arrive dans l'organisme et qu'elle est à une dose très élevée, l'organisme, elle ne s'approche pas au récepteur, la refuse. D'ailleurs, pour celles ou ceux qui ont connu des femmes qui avaient des cancers du sein ou de la prostate, d'ailleurs, il y a un médicament pour les femmes qui ont un cancer du sein qui s'appelle le tamoxifène, qui a exactement cet effet, c'est-à-dire qu'à des doses très fortes, ça bloque le développement des cellules par un cancéreux, mais à des doses très faibles, ça stimule, en revanche, la prolifération des cellules cancéreuses. Et c'est ce qu'on voit dans le film, notamment avec une expérience, par hasard, ils ont découvert que des doses très très faibles de plastique dur avaient contaminé les cellules cancéreuses du sein et avaient entraîné la prolifération de ces cellules. Donc, on sait aujourd'hui que ce n'est pas la dose pour ces molécules-là qui fait le poison, mais c'est le moment d'exposition. Et donc, ça veut dire que toute notre réglementation, pour deux raisons au moins, est à revoir complètement, parce qu'elle ne tient pas compte des effets cocktails, et deuxièmement, elle ne tient pas compte de ce que je viens de dire, c'est-à-dire des faibles doses, notamment des molécules qui ont des fonctions œstrogéniques, ou en tout cas